Bienvenue en première classe, le balado qui vous convie à explorer divers sujets d'actualité de tout acabit portant sur le style de vie au masculin. Rejoignez-nous deux fois par mois pour des discussions animées, parfois sérieuses, parfois amusantes, mais toujours pertinentes et intéressantes. En première classe est présenté par Gentologie, le magazine pour gentlemen, et animé par moi-même, Normand Boulanger, son éditeur et rédacteur en chef. Au menu de ce troisième épisode d'En première classe, nous recevons M. Marc Bouchard, journaliste automobile chevronné comptant plus de 25 ans d'expérience. Il a occupé divers postes dans l'industrie, notamment celui de rédacteur en chef national chez Autonet.ca, avant de participer à la fondation d'Autogo.ca où il est ensuite devenu son rédacteur en chef. Si sa voix vous semble familière, c'est que vous pouvez l'entendre sur plusieurs stations de radio, non seulement au Québec, mais à travers le Canada. De plus, il est co-animateur de l'émission de télévision Virage, contribue à de nombreux journaux, sans compter notre magazine Gentologie. Il co-anime le balado Gatchard avec son fils William Bouchard et leur site Internet devrait être en ligne sous peu. Notre invité en a conduit des véhicules. Et il en connaît des choses sur ce domaine. Sans plus attendre, voici notre discussion avec M. Marc Bouchard sur ce qui devrait se passer dans le milieu de l'automobile en 2025. Sur ce, bonne écoute. Et bienvenue en première classe. Et on reçoit aujourd'hui notre journaliste automobile attitré, M. Marc Bouchard, un gentleman au volant qu'on pourrait dire. Et on va parler un peu d'automobile aujourd'hui. On voulait savoir un peu qu'est-ce qui s'en vient en 2025 pour le domaine automobile. Donc, Marc, on s'est vu au Salon de l'Auto. Juste premièrement, quelles sont tes impressions sur ce qu'on a vu au Salon de l'Auto en matière de véhicules? Et y a-t-il des choses qui t'ont étonné, qui t'ont un peu déçu aussi?
Pas vraiment, en fait, parce que le Salon de l'Auto de Montréal, il faut le rappeler, c'est quand même un salon qui est assez régional. Hein. Il y avait peu de nouveautés réelles. Il y avait la IONIQ 9, présentée par Hyundai, qui était en première canadienne, mais qui avait déjà été présentée au Salon de Los Angeles un peu plus tôt. Donc ça, c'était la seule vraie première. Du côté de chez Kia, on avait fait un effort avec la PV5 Weekender, que j'ai trouvé particulièrement attirante, je dois le dire. Là. Mais c'est un prototype, c'est un concept, c'est pas un véhicule qu'on va voir sous cette forme-là chez les commerçants. Donc, évidemment, pour le reste, on avait là tous les plus beaux véhicules. La déception, c'est que certaines marques étaient toujours absentes. Pensons à Acura, par exemple, et Honda, Mazda qui n'était pas là. Genesis qui était absent, ça c'est particulier, tout comme VinFast qui pourtant aurait tout intérêt à se faire connaître, mais qui était absent du Salon de l'Auto, donc c'est évidemment des choses qu'on aurait aimé voir. Par contre, bien sûr, pour les amateurs, il y avait des trucs intéressants. Pensons à Mercedes qui avait amené sa gamme, notamment la magnifique AMG GT, dont oui, on a oui. déjà parlé dans oui. Gentologie d'ailleurs, mais qui est un véhicule qui m'a conquis absolument. La SL, qui est superbe aussi, qui était là. Donc, vraiment de très, très beaux véhicules du côté de Mercedes. Les véhicules de luxe, les McLaren, par exemple, et les autres étaient sur place aussi. Et bien entendu, la collection de Luc Poirier de Ferrari. Bon, je dois admettre que je ne suis pas un fan de ce genre de choses-là parce que je suis pas assez connaisseur pour être en mesure de véritablement apprécier chacun des différents modèles qui étaient sur place, même si je sais que certains de ces modèles-là sont des raretés et que leur valeur est exceptionnelle. Mais moi, après 3 ou 4, j'avoue que j'avais comme pas mal fait le tour. Là, je suis pas assez maniaque de Ferrari pour être en mesure d'en apprécier les subtilités, mais pour quand même, pour les gens qui ça intéresse, c'était une magnifique collection, bien entendu.
Donc, il va falloir t'envoyer un peu plus sur des événements Ferrari.
Moi, je suis ouvert à toute proposition, mon cher.
Puis si on peut parler aussi des grands absents, on remarque Audi, qui ça fait quelques années qu'ils ne sont plus présents chez nous, malgré leur investissement au Québec dans les investissements publicitaires, même au niveau de certains événements comme le gala de la disque ou quelque chose comme ça, si je ne me trompe pas.
Ouais, mais tu sais, il y a Audi, il y a BMW ouais. qui était absent ouais, aussi. Donc, il y a plusieurs à Mini, bien entendu, qui vient avec BMW. Donc, ce sont des absents de marque. Je veux pas trop en parler parce que, honnêtement, je me dis, ils méritent pas qu'on en parle parce qu'ils sont absents. J'aime mieux parler des gens qui étaient là. Et à ce moment-là, ben oui, c'est un peu triste pour les amateurs, mais en même temps, il faut quand même reconnaître que le salon a commencé à ressembler à un salon de l'auto, ce qu'il avait perdu un peu depuis quelques années, là. Mais même s'il y a des éléments que je trouve un peu dérangeants, c'était quand même, ça vaut quand même le détour.
Oui, c'est vrai que c'est vraiment intéressant. Puis je trouve que même si... Si Hyundai, c'est peut-être pas le genre de véhicule qu'on va parler souvent sur Géantologie, mais je trouvais que la présentation était belle. Je trouvais ça intéressant d'avoir Marie-Lou sur place cette année au lieu d'avoir un hologramme comme l'année dernière. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis d'avoir cette conversation-là, surtout en français aussi de la part de Hyundai, avec des gens qui parlent français, pas des gens qui, des anglophones qui lisent le texte et puis qui parlent pas un mot français. Ça, c'était vraiment intéressant. Hyundai qui est vraiment impliqué dans la culture québécoise tout de même, mais avec Genesis aussi, mais d'une façon différente maintenant parce que...
Oui, mais tu remarqueras cependant que la plupart des marques au Salon de Montréal ont fait des efforts absolus pour ça. Les porte-paroles de la plupart des compagnies, bon, évidemment, n'étaient pas nécessairement à la journée de presse, mais ont été faire un tour. Je pense à Karine Vanasse qui est allée pour Nissan. Je pense à Marie-Lou Wolfe qui a fait un passage. Mélissa Desormeaux-Poulin aussi qui est allée pour Kia. Même Valérie Limoges, la gagnante de la Coupe Nissan Sentra l'année dernière, qui est allée avec sa voiture de course signer des autographes. Bref, honnêtement, on fait vraiment un effort pour effectivement jouer la carte francophone. Étonnamment, la seule présentation bilingue a été celle de l'AJAC, de l'Association des journalistes automobiles du Canada, qui a présenté ses 12 gagnants par catégorie. Et c'est la seule présentation bilingue. Toutes les autres étaient en français.
Oui, c'est un peu étrange d'ailleurs, mais bon, on va leur laisser...
Je ne commenterai pas sur mon association
c'est bon. En ce moment. Ce que je voulais dire, si on parle un peu, justement, on regarde ça, on voit le salon de l'auto, c'est un peu ce qui nous amène un peu vers l'avenir. Puis si on parle du futur, là, qu'est-ce qui s'en vient? Là? Est-ce que le véhicule électrique, on sait qu'il y a eu quelques petits changements récemment avec le gouvernement. Je dis petit, mais c'est quand même quelque chose de gros. Mais qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le futur des véhicules électriques? Qu'est-ce qui s'en vient avec ça? Est-ce qu'on recule? Est-ce qu'on avance? On regarde aussi qu'est-ce qui s'en vient au sud de la frontière avec le nouveau leader de ce côté-là. Donc, qu'est-ce qui s'en vient?
Si j'avais la réponse à ça, je serais millionnaire. Parce que effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'insécurité du côté des véhicules automobiles électriques. Petit résumé rapide. Au Québec, on avait jusqu'en décembre 12 000 $ d'aide financière. Le gouvernement provincial a déjà annoncé qu'à compter du 1er janvier, il réduisait sa contribution de 7 000 à 4 000 $. Ça a été fait au 1er janvier. Le fédéral, lui, continuait de donner 5 000. Et un vendredi, le fédéral a annoncé publiquement que le programme se terminerait le 31 mars ou au moment de l'épuisement des fonds. Ça, c'était le vendredi. Le lundi matin, le même ministère a envoyé un courriel à tous les concessionnaires pour dire « Ben, les fonds sont épuisés, alors on ferme le contrat maintenant ». Donc, ça veut dire qu'on est passé, en fait, de 12 000 à 4 000 $ d'aide financière en moins de 48 heures. Évidemment, ça a été un électrochoc dans le monde des voitures électriques. Ce qui se produit actuellement, c'est que les manufacturiers ont décidé de compenser en tout ou en partie, selon le choix, les aides financières gouvernementales. Donc, on donne des montants de 5 000. Écoute, dans le cas de Volkswagen, c'est même plus payant d'aller t'acheter une voiture électrique chez Volkswagen maintenant, parce qu'avec les aides financières que le gouvernement donne, plus les compensations que Volkswagen donne, vous avez 14 000 $ de rabais sur une ID4. Alors, mais ça, c'est jusqu'au 1er février. Par la suite, on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que le programme fédéral ne sera probablement pas renouvelé. On a annoncé du côté provincial qu'à partir du 1er avril, le programme reviendrait. Mais je te rappelle que c'est 4 000 $. Donc, février-mars, on peut s'attendre à ce que les ventes soient très basses, à moins que les constructeurs décident encore une fois de sortir de l'argent de leur poche et de dire « Nous, on va payer cette différence-là. » Ça, c'est ce qui se passe chez nous. Parallèlement à ça, ben, tu l'as dit, Donald Trump est devenu officiellement président des États-Unis. Une des premières règles qu'il a adoptées, c'est qu'il a décidé d'éliminer les aides financières gouvernementales fédérales pour l'achat de voitures électriques. Donc, il y avait 7 700 $ d'aide fédérale. Ça n'existe plus aux États-Unis. Il a aboli le budget qui avait été établi pour la mise en place d'un réseau de bornes. On parlait de près de 300 000 bornes qui auraient été installées un peu partout aux États-Unis. On a coupé l'aide financière pour ça. Il a modifié les conditions énergétiques pour être capable de recommencer le forage pour avoir plus de pétrole et de gaz naturel, alors qu'on s'en allait dans l'autre sens. Et il a dit qu'il annulait le mandat pour les voitures électriques 2035, là. Tu sais, où on était obligé en 2035 d'avoir 100% de voitures électriques, puis il y avait des étapes d'ici là. Ça, cette partie-là, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que... Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai. Non, attends. C'est vrai, mais c'est partiellement vrai. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement une recommandation forçant 100% de voitures électriques. Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que la loi n'est pas fédérale. Le gouvernement Biden avait effectivement adopté une résolution précisant que il y aurait une recommandation d'avoir 100% de voitures électriques en 2035 et avec des étapes d'ici ce temps-là. Mais ce projet-là n'était pas contraignant. Donc, il n'y avait pas de loi. Ce sont les États qui règlent ça. Donc, la Californie, le Vermont, le Maine ont des règles de cette nature-là. Et Donald Trump a beau dire ce qu'il voudra, pour le moment, ce sont encore les États qui ont le gros bout du bâton. Donc, ça devrait donner place à une lutte entre l'État et le gouvernement fédéral. On va voir comment ça va se passer. Évidemment, ça va ralentir les ventes de voitures électriques. C'est clair, tu viens de perdre 7 500 $ d'aide financière. C'est évident que ça va ralentir considérablement. Mais est-ce que c'est la fin des voitures électriques? Pas nécessairement, parce qu'en même temps, l'Association des constructeurs américains a fait une démarche pour dire « Nous, on les veut, ces règles-là. » Parce qu'on a investi des centaines de milliards de dollars dans l'élaboration d'un programme électrique et on veut pas l'avoir dépensé pour rien. Et on veut savoir où on s'en va. On veut avoir des objectifs précis. Donc, on a besoin de ça. Donc, eux ont fait des démarches dans ce sens-là. Et un autre détail qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il y a, dans les proches collaborateurs de M. Trump, un certain Elon Musk, qui, lui, les ventes de voitures électriques, évidemment, il veut en faire, mais il a déjà annoncé que ses prix augmentaient. Fait que là, lui, c'est pas la vente nécessairement. Mais ce qu'il faut se souvenir, c'est que 43% des bénéfices de Tesla provient de ventes de crédits carbone à des compagnies qui ne sont pas capables d'atteindre les cibles. Ça veut dire que près de la moitié de ces bénéfices proviennent de ces mandats-là. Si on annule le mandat, ça veut dire que Tesla perd 50% de ses bénéfices. Je ne suis pas sûr qu'il va être si d'accord que ça avec l'idée. Alors, il y aura donc toutes sortes de démarches politiques encore à faire. C'est clair que Donald Trump a manifesté qu'il n'était pas favorable au développement de voitures électriques en particulier, mais je pense qu'il va se calmer un peu sur certaines positions parce qu'il n'aura pas le choix, parce qu'il va être, disons, supporté par son entourage.
Oui, vraiment intéressant. Justement, je pensais justement à ça, mais est-ce que justement ces rabais-là, est-ce que ça influe sur une classe de gens qui achètent des véhicules un peu plus haut de gamme dans certains... quand on parle... puis je pense qu'il n'y a pas une tranche de dollars où la réduction ne s'appliquait pas aussi?
Oui. C'était les véhicules en haut de 70 000 $. En résumé, oui. Là, c'est pas tout à fait ça, mais au Canada, c'est les véhicules en haut de 70 000 $ n'étaient pas admissibles. Donc, ça n'affecte pas les gens qui veulent s'acheter une BMW de luxe ou une Mercedes de luxe électrique. Ça ne les affecte pas. Ça affecte plus les gens de la classe moyenne, mais il y a un effet indéniable. En Allemagne, quand on a cessé les aides financières, les ventes de véhicules électriques ont baissé de 27,4%. C'est énorme. Et c'est parce que l'effet est pervers. Il n'y a pas que les ventes. C'est que moins il y aura de voitures électriques, moins il y aura d'investissements qui vont être faits dans ce monde-là, moins il y aura de bornes électriques. Donc, même si tu as les moyens de l'acheter, si tu n'as pas de borne pour la recharger, tu n'auras pas d'intérêt à en acheter. Donc, il y a tout un effet d'entraînement qui va avec la diminution de ça. Et je pense qu'il va y avoir pas mal de négociations dans l'avenir pour s'assurer que ça va fonctionner.
Super intéressant. Si on parle justement de voitures électriques, le futur, est-ce qu'il y a des véhicules que tu attends impatiemment en 2025? J'aime vraiment ça t'entendre là-dessus parce que je sais que tu es un passionné.
Il y en a deux. Il y en a deux que j'ai très, très hâte d'essayer. Le premier, on n'est pas du tout dans un véhicule de luxe. On est dans un véhicule qui est plus sportif, qui fait appel un peu, je dirais, à mon âge, malheureusement, et à la nostalgie. C'est le Dodge Charger Daytona électrique. Je trouve qu'il est absolument magnifique. On a fait un beau travail. Il est plus proche de ce que le Charger était à l'époque. Il a plus une sensation de muscle car. Et chez Stellantis, on a clairement dit, écoutez, nous, on ne veut pas faire une voiture électrique qui a l'air d'une soucoupe volante. Là. On veut faire une voiture électrique qui va rappeler les éléments. D'ailleurs, il y a même une sonorité qui a été intégrée à l'intérieur qui rappelle les voitures à essence. Bon, le Charger va aussi être disponible avec un moteur à essence, mais la version électrique, j'ai très, très hâte de mettre la main dessus. Le deuxième, et tu ne seras pas surpris, puis les gens qui me connaissent ne le sont pas non plus, c'est le Mercedes Classe G électrique. Écoute, moi, je suis un fan du Mercedes Classe G. Je sais que ce n'est pas politiquement correct. C'est un gros VUS dont on n'a absolument pas besoin dans la vraie vie, qui est capable de traverser l'Himalaya tellement il est bien équipé. C'est un véhicule, pour ceux qui ne le situent pas, là, c'est un véhicule que même l'armée utilise et qui a fait beaucoup, beaucoup d'efforts en Afrique, entre autres. Ah, mais évidemment, on en a une version de luxe, et là, on en a une version électrique, et c'est complètement fou. D'abord, au niveau des performances électriques, mais aussi au niveau de toutes sortes d'affaires. Je ne sais pas à quoi ça sert, là, mais ça peut faire un 360 sur place sans même avoir besoin de se déplacer. Donc, il fait littéralement un tour sur lui-même.
Ben justement, quand tu es sur l'Himalaya puis tu ne veux pas reculer, donc tu fais un tour sur toi-même puis tu redescends par en bas.
Ouais, tu sais, mais je veux dire, mettons que les occasions pour faire ça sont peut-être un peu limitées. Ouais. Au moins, si tu regardes, donc, par exemple, des véhicules comme le Hummer ou avec d'autres véhicules GM, on ce qu'on appelle le crab walk, la marche du crabe, qui peut te permettre de déplacer jusqu'à 15 degrés, t'sais, en angle de 15 degrés. Là, dans ce cas-ci, on fait littéralement un 360. On tourne, on est capable de faire un tour complet sur soi-même. Écoute, je ne sais pas si ça sert à quelque chose, mais j'ai hâte de l'essayer moi-même. Et c'est définitivement le véhicule que j'ai le plus hâte d'essayer. Mais je ne le mets pas généralement dans mes listes, parce qu'à 200 quelques mille dollars, c'est sûr que les chances que je l'ai pendant longtemps sont assez limitées. Mais je vais essayer de mettre la main dessus pour une semaine, c'est certain.
Si on parle justement de toujours... Je trouve que, par exemple, tu disais le Charger, tu sais, je trouve intéressant parce que Stellantis, c'est Ferrari qui est en arrière de ça aussi. Donc, Fiat, Ferrari et Agnelli. Donc, la famille qui a un peu cette... peut-être une préoccupation peut-être du côté du design puis de l'importance du design. Là. On parlait du Ferrari tout à l'heure. Je trouve que là, c'est John Elkman, je pense, si je ne me trompe pas, qui est aux commandes comme PDG par intérim. Je trouve que c'est intéressant de voir la famille qui est encore aux commandes un peu.
Ouais. Mais tu sais, chez Stellantis, c'est toujours assez variable comme façon de fonctionner. Là, on va voir ce que ça va donner. Parce que, bon, évidemment, c'est pas facile. Il n'y en aura pas de facile non plus. Tu sais, les Alfa Romeo, on n'atteint pas tout à fait les objectifs voulus. Fiat non plus. On a une Fiat électrique, une Fiat 500 électrique qui est super le fun, mais qui se vend pas parce qu'elle est beaucoup trop dispendieuse par rapport à ce qu'elle propose. Ouais. Donc, tu sais, il faut qu'ils amènent des alternatives qui vont mieux coller avec la réalité de leur base. Et la base, c'est pas les clients de Ferrari. Ouais. La base, c'est véritablement les clients nord-américains de véhicules de performance. Et je pense que de ce point de vue-là, le Charger va être hyper important pour Stellantis. Ça va leur permettre de continuer des projets peut-être moins rentables, mais je pense que ce véhicule-là va être hyper important pour
eux. Puis, tu sais, si on parle aussi encore en 2025, est-ce qu'il y aurait des retours surprises que t'aimerais voir, que t'entendais des rumeurs sur des trucs qui pourraient revenir?
Ben, c'est sûr qu'on a hâte de voir des véhicules comme la Honda Prelude, par exemple. La Toyota Celica qui doit revenir aussi. On est supposé nous présenter aussi éventuellement une nouvelle version de la Mazda Miata MX-5 qui est basée sur le concept SP de Mazda, donc un véhicule beaucoup plus performant. Le problème, en fait, c'est qu'au niveau des motorisations, c'est là qu'on est un peu dans l'inquiétude parce que si ce sont des petits véhicules hybrides, ça risque de dénaturer un peu ces véhicules-là, qui étaient des véhicules hyper sportifs dans leur nature. Donc, on ne veut pas trop aller là-dedans. On sait que la Prélude, ça va être un hybride traditionnel. Donc, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner dans la réalité. Mais oui, évidemment, on a tous hâte de... En même temps... On peut se questionner sur la nécessité de ramener de vieux noms. Parfois, c'est une bonne chose. C'est pas toujours nécessaire non plus de ramener de vieilles marques. Je pense qu'on a suffisamment évolué dans le monde automobile pour nous présenter des nouveautés. Tu sais, il y a encore tout un conflit entre les gens qui aiment la Mustang Mach-E et ceux qui disent que c'est pas une vraie Mustang. Tu sais, donc, on n'a pas fini de discuter de ce genre d'approche-là. Le Bronco, ça a été un cas, par exemple, où on a bien fait les choses. On a ramené un beau véhicule qui n'est pas nécessairement ce que l'ancien était, mais on arrive avec un beau véhicule bien pensé. Mais c'est pas toujours le cas. Ford aime beaucoup ce genre d'affaires-là. Les Américains aiment beaucoup ramener des vieux noms. Ce qui est intéressant, cependant, c'est quand on regarde du côté européen, quand on nous ramène des vieux noms en modernisant les véhicules. Prends la Renault 5. On nous a présenté la Renault 5 électrique il y a quelques mois. Elle est absolument magnifique. Elle remporte plein de prix pour son efficacité et ses performances. C'est vraiment, vraiment génial. La dernière nouveauté au moment où on enregistre, c'est qu'on voudrait ramener une 2 chevaux électrique. Les fameuses petites 2 chevaux, on garde la même silhouette ou à peu près, mais on arrive avec quelque chose d'électrifié. Alors ça aussi, ça pourrait être intéressant. Donc, il faut peut-être suivre plus cette tendance-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur.
Mais c'est intéressant parce que c'était des véhicules, justement, qui n'étaient pas trop gros, donc qui sont probablement super efficaces en mode électrique parce que, justement, c'est le poids de la voiture est un petit peu est moindre, donc elle ne prend pas beaucoup de place, donc ça se déplace facile en milieu urbain, c'est super bien.
Oui, mais en même temps, encore faudrait-il que qu'on les étende un peu plus grand sur un territoire. Tu sais, au Canada, en Amérique du Nord, on a peu de petits véhicules électriques. En fait, on n'en a littéralement pas, à part la Fiat 500 électrique. Puis, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs parce qu'elle est trop dispendieuse.
La même chose pour la Mini.
Tu sais, t'arrives avec
la Mini, c'est la même chose aussi. La Mini électrique, c'est...
C'est ça, c'est que c'est des voitures, tu sais, la Fiat 500 est à 43 000 $ pour 240 km d'autonomie. C'est largement insuffisant. Puis tu sais, on joue la carte de la nostalgie. Tu sais, par exemple, prenons chez Volkswagen, on nous amène le ID Buzz, qui est magnifique, qui a l'air d'une vieille Westphalia, qui est super beau, mais qui part à 70 000 $ et dont les versions un peu équipées vont être à 80 000 $ avec 360 km d'autonomie. Je m'excuse. Je veux pas avoir l'air cliché, là, mais les vieux hippies qui veulent se rappeler leur vie de Westphalia, ils paieront pas 80 000 $ pour aller faire 360 km, c'est pas vrai. T'sais, ils vont, si tu veux aller vivre la van life, ça te prend plus d'autonomie que ça. Alors, tu sais, oui, on joue beaucoup la carte de la nostalgie, la carte du look, mais il faut amener quelque chose d'un peu plus. Il faut amener l'efficacité. Il faut amener l'abordabilité, le prix qui va être un peu plus raisonnable parce qu'actuellement, on paye très cher pour des produits dont la dépréciation est extrêmement rapide.
Oui, puis en même temps, si on regarde justement le modèle ID Buzz qui était au salon de l'auto, c'était un petit peu quasiment une blague. La finition sur ce véhicule n'était pas... magnifique. Le véhicule était sale, donc c'était un petit peu drôle comme présentation de véhicule. On dirait que Volkswagen n'avait pas pris la peine de...
Faut préciser que nous, on est allé à la journée de presse et que, tu sais, ça s'est replacé par la suite, là. Le soir, c'était la soirée VIP, donc on avait replacé tout ça. Et c'est sûr que c'est un détail. Oui, mais effectivement, tu as raison de dire que c'est un véhicule qui doit profiter d'une vitrine particulière pour être vraiment dans son monde. Et actuellement, même s'il est très beau, je suis pas convaincu, moi, qu'il va se vendre tant que ça.
Si on continue, justement, par rapport... Tu sais, on était dans les véhicules sport un peu tout à l'heure. L'influence de la Formule 1 sur les véhicules, est-ce que tu vois ça un peu, par rapport à la recherche, par rapport à beaucoup de manufacturiers qui s'en vont en F1, même en en Formule 1, est-ce que tu vois ça un peu, que ça touche un peu les véhicules?
Pas
Non?
vraiment. Ça a déjà été le cas, beaucoup plus que ça l'est maintenant. Les échanges technologiques entre la Formule 1 et les voitures traditionnelles sont pas si grands que ça. Parce que c'est beaucoup trop pointu en Formule 1. Oui, ça serait faux de dire qu'il n'y en a aucun, là. Mais c'est vraiment sur du long terme. C'est pas quelque chose qui est facile. C'est par exemple, on va développer des matériaux qui vont être d'une grande solidité, d'une grande légèreté pour des Formule 1, mais on peut pas mettre ça sur des voitures de tous les jours parce que c'est beaucoup trop dispendieux, puis la réparation est complexe. Par contre, la Formule 1 permet de faire, et depuis longtemps, des éléments qu'on souhaiterait vouloir étendre. Par exemple, il y a quelques années, j'avais visité, entre autres, Infinity Red Bull à l'époque, et eux autres, entre deux courses, ben, il y avait besoin de certaines pièces qu'ils imprimaient 3D et qu'ils amenaient. Donc, est-ce qu'ultimement, on pourrait en arriver à utiliser ce genre de technologie-là pour remplacer certaines pièces automobiles courantes et la faire imprimer directement chez ton concessionnaire plutôt que de la faire livrer par un entrepôt? Ça pourrait être une solution. Donc, tu sais, il y a des éléments comme ça, des éléments mécaniques, encore une fois, pas vraiment. Peut-être plus avec la nouvelle motorisation
en
qui arrive
2026.
du côté de la Formule 1. Ça va peut-être être plus proche de la réalité, mais tu sais, les circonstances dans lesquelles la Formule 1 est utilisée fait qu'il y a de moins en moins, et les budgets que ça nécessite, hein, on va se dire, fait que c'est de moins en moins applicable du côté de la formule régulière, des voitures régulières. Même chose du côté de la Formule E. On souhaiterait bien pouvoir exporter la technologie de la Formule E vers les voitures électriques, mais actuellement, je te dirais que c'est presque le contraire, parce que en Formule E, le problème, ben, c'est les batteries, c'est la puissance. Donc, on est encore dans un autre monde extrêmement pointu. Est-ce qu'il n'y a aucun échange? Non, il y en a, c'est sûr. Mais c'est. Je suis pas sûr qu'il y en a autant qu'il y en a déjà eu à une certaine époque, où là, vraiment, il y avait plus un lien direct. Maintenant, c'est plus une question de standing qu'une question de réel partage de technologie.
Qu'est-ce qu'on, justement, parlant de Formule 1, on a Jaguar qui est encore présent. Et si on revient un peu sur le dévoilement de Jaguar, la nouvelle marque, j'aimerais savoir ton avis là-dessus, sur ce que c'est, parce que c'est vraiment étrange là, pour une marque de luxe qu'on connaît, classique, britannique, qui s'en va.
Ils se sont complètement déconnectés de leur héritage, et ça risque de leur faire mal. Mais Jaguar a précisé que ce qu'ils voulaient, c'était concurrencer Bentley. Ils ne veulent plus être la marque, je te dirais, plus abordable avec des véhicules comme la XF, par exemple, ou comme la E-Pace, qui étaient des véhicules à 40-50 000 $. Ils n'en veulent plus de ça. Ce qu'ils veulent, ce sont vraiment des véhicules de grand luxe. La voiture qu'ils nous ont présentée, la Jaguar 00, là, écoute, c'est une grosse berline et qui aura des capacités électriques foudroyantes, probablement. Et je pense que quand on regarde les photos ou les dessins plus réalistes de la voiture, on arrive avec quelque chose qui pourrait être raisonnable pour une marque comme Jaguar, considérant que ça va être un véhicule qui va se vendre 200 000 $. Mais on n'est plus du tout dans rien d'abordable. On n'est plus du tout dans la notion d'héritage nostalgique de la marque. Et malheureusement, le lancement qu'on en a fait, ben, on a voulu peut-être un peu trop se dissocier justement de cet héritage-là. Et là, ben, on a perdu toute crédibilité. Ça va très. Mais il reste un an. Il faut rappeler qu'actuellement, Jaguar ne fabrique plus aucun véhicule. La production est à zéro. Et ils vont recommencer pour des modèles 2026. Donc, ça leur laisse une année complète pour tenter de se repositionner pour être capable d'aller chercher le bon marché. Fait, ce qu'ils ont fait. Non, c'était pas un bon coup parce qu'ils ont vraiment perdu la crédibilité. D'un autre côté, ça leur donne une base pour reconstruire sur quelque chose de nouveau, mais ils ont effectivement perdu, je pense, ceux qui étaient des indécrottables amateurs de Jaguar. Ben là, ils se sont complètement éloignés. Et quand on regarde la publicité qui a été faite, sincèrement, ça pourrait être une annonce de n'importe quoi. Ça pourrait être des trucs de mode, des parfums, ça pourrait être n'importe quoi, sauf de l'automobile. Et quand on regarde le concept qu'on nous a présenté avec l'immense grille en arrière, Bon, je disais de façon un peu méchante, on dirait qu'ils ont récupéré les grilles de ventilation dans les écoles. Tu sais, les grilles, puis qu'ils ont branché ça en arrière de leur véhicule. Alors, pour moi, c'est largement inopportun. Mais, je le répète, quand on regarde ce qui a été fait par la suite, qu'on a présenté le modèle de façon plus logique, moins bleu et rose, ouais, mais vraiment dans un véhicule qui ressemblait à quelque chose, là, ça pourrait avoir une certaine allure et ça leur donne plusieurs mois pour se repositionner. Écoutez, peut-être que dans un an, on va dire, on va crier au génie en disant qu'ils ont fait un coup incroyable de remarketing sur leur marque. Peut-être, mais pour le moment, c'est un peu les dindons de la farce.
C'est ironique, tu sais, sur Facebook, moi, je vois j'ai de la pub de Jaguar et puis dans les publicités, ils utilisent l'ancien logo. Donc, c'est quand même un peu étrange. Oui.
Ça, c'est l'autre affaire, c'est qu'ils ont changé le logo sans vraiment être en mesure de l'imposer non plus. Parce que, comme tu dis, ils utilisent encore l'ancien. Fait, c'est pas facile à suivre actuellement. Moi, je laisse la chance aux coureurs. Ils ont un an pour se refaire. Mais effectivement, ça va pas très bien. Et actuellement, on sait que les concessionnaires européens sont en furie parce qu'ils n'ont plus rien à vendre. Alors, tu sais, quand tu as investi quelques centaines de milliers, voire des millions d'euros dans une concession, puis que tout d'un coup, tout ce que tu as à vendre, c'est des voitures usagées, pas sûr que ça fait nécessairement l'affaire de tout le monde.
Parlant justement d'Europe et de plus petits véhicules, justement, tu nous parlais tantôt de voitures, de retour de voitures, je sais qu'il y avait beaucoup, énormément de VUS au salon de l'auto, mais est-ce qu'on revoit un peu un retour des véhicules, des automobiles, ou on va toujours dans le VUS?
Pas du tout. Et au contraire, on est passé de 70 à 82 % des ventes canadiennes qui sont des véhicules, soit des VUS ou des camions légers. Bon, évidemment, la notion de camion léger et de VUS est un peu élastique. Tu sais, si tu prends un Hyundai Venue, qui est en fait un Hyundai Accent monté sur des talons hauts, c'est considéré comme un VUS. Donc,
Le V6, je me trompe pas.
Absolument. Le Ioniq 5 est un VUS.
C'est un peu une familiale qu'on appelait un peu dans le temps.
C'est ça. Alors, mais ça n'existe plus. En fait, si tu regardes la Toyota Crown Signia, bon, moi, je trouve que c'est une magnifique familiale, mais on ne l'appelle pas familiale, on l'appelle VUS, parce que dans certains pays, si tu l'appelles familiale, il y a certaines normes que tu dois respecter. Si tu l'appelles VUS, il y a moins de normes, donc c'est un VUS. Alors, tu sais, on joue beaucoup la carte de ça, mais non, il n'y a pas de retour vers les berlines, malheureusement. On le constate d'ailleurs, la plupart des nouveautés sont soit des VUS, soit des camionnettes. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Tu sais, regarde là, Chrysler n'offre plus rien comme voiture. Stellantis, là, il n'y a plus aucune. Il va avoir le Charger. Électrique, c'est pas mal le seul. Si tu regardes du côté de Genesis, on a encore la G70 et la G80-90, mais on sait que la Kia Stinger a disparu. Donc, il y a fort à parier que la G70, qui est à peu près la même plateforme, va disparaître à son tour. Chez Hyundai, il y a quelques voitures, mais encore une fois, il y en a qui disparaissent. Des voitures d'entrée de gamme, il n'y en a littéralement plus. T'sais, on a déjà eu des Mitsubishi Mirage qui étaient à 19-20 000 $. Ça a disparu, ça n'existe même plus. Les voitures ne font pas un retour actuellement. Là où elles font peut-être un retour, c'est dans certaines marques de luxe. Je pense à BMW, je pense à Mercedes-Benz, entre autres, qui nous présentent des berlines, entre autres des berlines électriques, vraiment intéressantes. Oui. La BMW i4, moi, je trouve qu'elle est absolument spectaculaire. Oui. J'aimais mieux la i5, personnellement, mais c'est une question de goût très, très personnel. La i8 aussi. Mais... ouais, mais là, c'est une autre affaire. En fait, ma préférée de toutes, c'est la BMW M5 hybride. Cette voiture-là, moi, je suis tombé en amour avec. Mais, encore une fois, ben, à 147 000 $ c'est pas le genre de véhicule que vous allez voir tous les coins de rue. Mais c'est vraiment un véhicule qui marie à la fois une certaine économie de carburant et une conduite vraiment dynamique. Donc, la M5, il existe donc de ce côté-là. Même chose du côté de chez Mercedes-Benz, avec la CLE que j'ai essayé récemment. Et, bon, les petits véhicules électriques. Mais encore une fois, qu'est-ce qui marche? Ben, c'est la EQB, c'est la EQS VUS. Donc, des véhicules qui sont essentiellement des VUS. C'est ça qui fonctionne. Audi va nous ramener au bonheur la RS6 avant, qui est une voiture de performance, une familiale de performance. Elle est absolument magnifique et superbe. Et c'est une très bonne nouvelle que ça revienne chez nous. Mais je vous dis, c'est pas une tendance.
Sur le côté européen, on est beaucoup plus dans la, justement dans ces véhicules-là un peu familial qu'on dirait. C'est ce que c'est... Oui. Dans les marques européennes, on voit ça beaucoup plus.
Ça s'appelle un break.
Oui, un break, oui.
Un break de chasse, en fait, qui est le vrai nom. Donc, oui, effectivement, le véhicule familial est plus populaire. Nous, notre problème, en fait, c'est qu'on est victime du marché américain. Les Américains ne veulent pas de petits véhicules. Ça se vend pas aux États-Unis. Ils veulent pas de familial, ils aiment pas ça. Les fameux station wagon, depuis qu'ils ont enlevé les panneaux de bois, là, les 2,4 enfants puis le gros chien, ils ont comme éliminé un peu cette vague-là. Alors, tu sais, depuis le National Lampoon Vacation, là, on a perdu un peu. Mais effectivement, donc, il y a très peu de véhicules familiales qui se vendent aux États-Unis. La preuve, c'est regarde Volvo qui a abandonné la majorité de ses familiales. Donc, on est victime, nous, de ce marché-là, et parce qu'on est un petit marché. Là. Rappelons qu'au Canada, il se vend moins de 2 millions de véhicules par année. Ouais. C'est-à-dire un peu moins que ce qui se vend en Californie.
Puis ce qu'il faut dire aux gens, c'est que les constructeurs sont comme obligés de faire passer les véhicules par les États-Unis puis après le Canada, si je ne me trompe pas. Quelque chose comme ça.
En fait, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a pas d'obligation, mais c'est que souvent, ben, les importations... Tu sais, nous, on a un marché qui va être limité. Dans le meilleur des mondes, on va vendre 50 000 unités d'un véhicule. C'est souvent pas suffisant pour l'homologation nord-américaine, parce qu'il faut que tu fasses homologuer du côté sécurité, du côté environnement. Parce que ça, c'est l'autre affaire, c'est que le monde est comme divisé en trois parties. Tu as l'Asie, tu as l'Europe, puis tu as l'Amérique. Et chacune de ces parties-là a ses propres normes de sécurité, ses propres normes d'environnement. Donc, un véhicule ne peut pas être vendu globalement sans avoir reçu l'accréditation partout. Mais ça, c'est des sous. Puis pour investir, pour faire ça, ben il faut que quelqu'un paye puis que le volume soit justifié. Le meilleur exemple, c'est la Volkswagen Golf qu'on ne vend plus chez nous parce qu'elle ne se vendait pas aux États-Unis. Chez nous, on en vendait 6000 copies par année. Mais ce n'était pas suffisant pour justifier les coûts d'homologation. Donc, on l'a éliminé tout simplement.
Ce qui était dommage. Peut-être que dans les véhicules, les petits véhicules à revenir, peut-être qu'on va avoir une Honda Civic 3 portes.
Moi, si je t'attends, je ne retiendrai pas mon souffle.
Non, c'est une blague.
Non, mais tu vois, c'est dommage parce qu'il y a plein de beaux véhicules européens qu'on pourrait avoir chez nous. Véhicules qui ne sont pas... Il y en a qui sont des véhicules de luxe, il y en a qui sont des véhicules plus standards. Tu sais, moi, je prends le Jeep Avenger. Oui. Par exemple, qui est un petit Jeep électrique vendu en Europe, qui gagne des prix parce qu'il est très populaire. Chez nous, ça ferait un ravage, mais ça se vendrait zéro aux États-Unis, donc on n'en a absolument pas chez nous. Tu sais, c'est le cas. On parlait de la Renault 5 tantôt. Tu sais, c'est des véhicules que si tu en avais au Québec, ça se vendrait à pleine porte, mais malheureusement, il n'y a pas cet engouement-là de la part des Nord-Américains en général, de la part des Anglo-Canadiens non plus. On a vraiment un marché différent au Québec.
Puis si on, pour terminer là-dessus, si on y va avec le retour des... Pas le retour, mais l'avenir pour les véhicules à essence, qu'est-ce qu'il y en est pour toi un peu là-dessus? Je sais que t'es quand même un fan de muscle car, comme tu disais tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y en est un peu sur ce qui se passe là-dessus? Revenir un peu. Oui.
Ce qu'il faut noter des véhicules à essence, c'est que, bon, OK, il y a l'obligation des moteurs électriques, puis on est dans je pense qu'on est dans une tangente où on n'aura pas le choix, on se dirige vers l'électrification. Ça, là-dessus, là, je pense que tout le monde est d'accord. On a passé le cap de l'acceptation de base, je pense, et de plus en plus, on se dirige vers ça. Mais les moteurs à essence sont quand même là pour rester assez longtemps. Moi, je pense que 2035, c'est beaucoup trop tôt. Ça va aller plus tard que ça. La particularité, c'est qu'on va utiliser les moteurs à essence d'une façon peut-être différente. On va d'une part en maximiser l'autonomie, donc on va diminuer la consommation, on va trouver des façons de les rendre encore plus économiques. Écoute, tu sais, prends un moteur hybride actuellement, là, une Toyota Prius, tu fais 4,4 litres au 100 avec ça. Je veux dire, c'est littéralement presque l'équivalent d'un véhicule électrique dont l'équivalent est à 3,8 litres. Tu sais, On est capable d'aller chercher des améliorations du point de vue des moteurs à essence. Ça, c'est la première chose. On peut les travailler en conjoncture avec d'autres moteurs, des moteurs électriques. Par exemple, des prolongateurs d'autonomie. Ram vient d'annoncer là, que le Ram 100% électrique n'aurait plus la batterie longue portée. Parce que ça coûte trop cher, c'est trop gros, c'est trop pesant. Il y aura une batterie de 500 quelques kilomètres. Mais il y aura le Ram Charger, qui lui est un moteur électrique avec une batterie qui permet 225 km d'autonomie, mais jumelé à un moteur V6 3.6 qui, lui, agit comme une génératrice. Donc, lui, va permettre de prolonger l'autonomie jusqu'à, dit-on, 1100 km. Alors, si c'est vrai, c'est une autre application pour les moteurs à essence, ce qui n'est pas négligeable, évidemment. Je répète que, à mon sens, les moteurs à essence vont finir par s'éteindre, en tout cas par diminuer considérablement leur part de marché, mais je ne pense pas que 2035 soit le seuil réel pour ça. On va continuer de les améliorer au cours des années, d'en diminuer la consommation, d'en augmenter l'usage pour des façons peut-être plus précises, plus pointues, qui vont limiter, justement, les émanations
polluantes. C'est peut-être là-dessus que la Formule 1 va nous aider, parce qu'ils ont comme des différents essences, des différents moteurs, où ils peuvent tester l'essence avec l'hybride, sur l'hybridation, en plus en performance.
Bien, effectivement, et il faut se souvenir que là, on parle d'essence, mais tu sais qu'il y a des modèles, par exemple, comme de l'essence synthétique, qui est actuellement en cours de développement, notamment chez Porsche, où on est en train de construire une usine au Brésil pour la fabrication d'essence synthétique. Essence synthétique qui est utilisable rétroactivement dans n'importe quel modèle. Donc, ça ne demande pas de modification importante de ton moteur. Donc, le gars qui a une Porsche 1976, qui le chérit comme la prunelle de ses yeux, comme c'est souvent le cas, ce gars-là va pouvoir utiliser de l'essence synthétique dont les émissions polluantes sont presque équivalentes à zéro. Donc, c'est pour ça que je te dis, il faut pas... Je pense qu'actuellement, même si on s'entend pour dire que l'électrification, c'est une des voies importantes pour la diminution, je ne pense pas que ce soit la seule. Et il faut travailler en conjonction avec les autres modèles, les versions. Tu sais, je le sais que c'est de la science-fiction, là, mais je vais te donner un exemple de l'hydrogène. Et là, les spécialistes disent tout, ça servira jamais à propulser des voitures, c'est trop compliqué. Ça se peut, c'est fort possible. Mais moi, j'ai visité un laboratoire en Alberta qui s'appelle Dark Matter Materials et eux ont trouvé un moyen de produire de l'hydrogène à faible coût électrique. Parce qu'actuellement, le problème, c'est que pour produire de l'hydrogène qui est partout, mais il faut la retirer de l'air et de l'eau, ça prend beaucoup d'électricité. On estime que ça prend 50 kW d'électricité pour produire un litre d'hydrogène. Ce qui est équivaut à peu près à 100 km. Donc, quand tu regardes une voiture électrique aujourd'hui qui fait du 22-23 kW au 100 km, ben c'est au minimum deux fois plus. Puis là, ça veut dire que tu ne l'as pas encore acheminé à ta pompe, là. Il y a vraiment un problème actuellement au niveau de la production d'hydrogène, c'est pas rentable. Pourquoi? Parce que c'est fait, entre autres, à partir d'eau distillée, puis dans des situations compliquées. Bon, eux ont trouvé un matériau qu'ils ne nous ont pas donné, évidemment. Tu auras compris qu'on a essayé d'avoir le secret, mais ils n'ont pas voulu. Et qu'eux peuvent utiliser dans de l'eau ordinaire, qui n'est pas distillée, limite qui n'est même pas nettoyée. Donc, tu pourrais prendre de l'eau directement d'une rivière et injecter le produit à l'intérieur, qui n'est même pas obligé d'être chauffée, cette eau-là. Elle peut être utilisée à température de la pièce. Et on est capable d'en tirer de l'hydrogène. On peut la chauffer, ça augmente les capacités. Mais mettons qu'on ne la chauffe pas, tu es quand même capable d'aller produire de l'hydrogène. Si tu la chauffes, c'est l'équivalent de 4 à 6 kW pour 100 km d'électricité. Alors, c'est 4 fois moins qu'une voiture électrique actuelle. Mais évidemment, pour le moment, on le fait sur une petite échelle. Ouais. Et la façon dont c'est fait, c'est que c'est fait à l'intérieur d'une espèce de thermos, d'une espèce de bonbonne hermétique dans lequel on met le produit, on met de l'eau et on récupère l'hydrogène qui sort. Ultimement, ce matériau-là, dont on ne connaît pas la contenance, on nous dit que ce n'est pas des métaux rares et que c'est facile à trouver dans la nature. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais ultimement, il perd ses capacités, comme n'importe quelle batterie. Il suffit de le chauffer pour qu'il les retrouve. Donc, il est réutilisable. Alors, eux autres, ce qu'ils disent, c'est qu'on pourrait, par exemple, Peut-être pas pour une voiture, parce que pour le moment, c'est un peu compliqué. Mais par exemple, un camion, un 53 pieds, aurait deux bonbonnes. Une première bonbonne qui contient le matériau avec de l'eau, qui récupère de l'hydrogène, qui alimente ta batterie et ton camion. Quand ta première bonbonne, ton produit n'est plus bon, tu as un petit switch qui t'amène à la deuxième bonbonne, et là, ta deuxième bonbonne agit de la même façon. Pendant ce temps-là, ta première bonbonne chauffe et recycle son matériau.
Wow.
Tu remets de l'eau dedans, puis ça repart.
C'est intéressant.
Ça, c'est ultimement... Mais tu sais, je te dis, c'est de la science-fiction. Ça se fera pas cette semaine. Mais ils sont déjà en marché avec les Samsung, les LG de ce monde pour la production de batteries qui fonctionneraient avec leurs principes. Et c'est une petite entreprise, une petite start-up qui est issue d'un programme de recherche de l'Université d'Alberta sur l'hydrogène. Il y a aussi une compagnie en Alberta qui est en train de construire une grosse usine de fabrication d'hydrogène et qui veut établir un réseau pan-canadien de distribution d'hydrogène. Il y aurait même déjà mis des options sur certains terrains au Québec, partant du Saguenay, Québec, Boucherville et ainsi de suite jusqu'à Windsor, Ontario, pour faire une route de l'hydrogène pour les camions. Donc, ça veut dire que, je veux dire, je ne m'attends pas à ce que ça arrive demain matin, je ne m'attends pas à ce que ce soit rentable demain matin, mais il y a encore des démarches qui se font dans ce sens-là. Ça veut dire que les options sont encore ouvertes, que ce soit le moteur à essence synthétique, la diminution de la consommation des moteurs à essence, l'hydrogène ou l'électrification avec des nouvelles formes de batteries, parce que ça aussi, ça se développe. On va arriver avec des batteries à l'état solide au cours des 2 ou 3 prochaines années, plus petites, plus puissantes, plus faciles à recharger. Donc, l'avenir, on ne sait pas où ça s'en va. C'est sûr qu'on est dans une époque charnière et il faut continuer d'aller dans ce sens-là, mais si je savais où ça s'en va, j'investirais tout de suite dans les bonnes compagnies puis je serais riche dans 20 ans.
C'est vraiment intéressant, Marc, puis j'ai vraiment aimé ça, parler d'automobile avec toi, puis on va annoncer qu'on va avoir à partir du mois de mars un nouveau balado qui va être à chaque mois qui va s'appeler « Gentleman au volant ». Donc, on va poursuivre cette discussion-là parce qu'on voit que l'automobile est en constant changement, puis on voit que tu es au courant de tout ce qui se passe, même au-delà de ce que je pouvais m'imaginer. Et c'est vraiment intéressant. Puis on a ton fils William qui va probablement se joindre des fois à nous. William qui est un scientifique un peu geek.
Oui, mais... C'est un nerd, en fait, dans la plus petite tradition. William est un étudiant au doctorat qui est aussi journaliste automobile et membre de l'Association des journalistes automobiles. Il fait des essais, mais il s'intéresse aussi à l'industrie et aux compagnies. Donc, ça risque... Des fois, ça fait des débats. On a d'ailleurs notre propre balado,
Gotchard,
que l'on fait ensemble où on fait des essais et des nouvelles. Mais oui, on va effectivement devenir les gentlemen au volant à compter du mois de mars
donc,
aussi.
Donc, on vous retrouve ici et au... Sur le balado Gotchard, évidemment, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Donc, un balado qui sort à peu près à chaque semaine. Ou deux semaines.
On sort aux 2 semaines. Ouais, ben maintenant que William est au doctorat, c'est plus compliqué.
Ouais, mais je comprends ça. Puis c'était vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Puis je te laisse là-dessus parce que je sais que justement, t'as enregistré Gotchard avec ton fils. Et puis on dit nos salutations à William et on se reparle très bientôt.
Avec plaisir. Bye bye.
Merci d'avoir été à l'écoute de ce 3e épisode d'En Première Classe. N'oubliez pas de nous suivre sur les différentes plateformes de balado, que ce soit Apple, Spotify ou autres, ainsi que sur nos réseaux sociaux à En Première Classe. On se retrouve le 13 février prochain avec nos conseils pour une sortie de Saint-Valentin en bon gentleman et dès le mois de mars avec Gentleman au volant. À bientôt!